Ah, qu'est-ce que j'ai bien ri. Voilà.
Radio Campus 93.3. Bienvenue à toutes les oreilles qui nous écoutent. Bienvenue sur Radio Campus 93.3. Et bienvenue dans Oui Dire, une émission consacrée aux arts de la parole, à l'art du conte et du récit. Avec moi dans les studios pour vous faire voyager dans les histoires, il y a Fred. Bonjour Fred.
Bonjour Fred.
Et puis Monique.
Bonjour.
Bonjour Monique. Petit Pierre.
Bonjour.
Et grand Pierre là-bas derrière sa vitre.
Bonjour.
Avec sa grosse voix.
Ah oui, c'est grand Pierre. Voix.
Bon, j'espère que vous avez passé de joyeuses Pâques et qu'il vous reste de la place après les orgies de chocolat, car ce soir, nous vous avons concocté un savoureux menu. Des lectures croustillantes, des chroniques de spectacles saignants, des récits de vie doux amers, et puis trouvailles et actualités toutes fraîches. Mais pour commencer, vous allez enfin pouvoir écouter l'interview d'Yves Durand, le conteur qui est venu présenter son dernier spectacle à la Petite Gaillarde et que Christine Buteau-Bourguignon a pu rencontrer. Je dis enfin, car la dernière fois, nous vous avions promis cette interview et puis un trou spatio-temporel a fait que nous n'avons pas pu la diffuser, malheureusement. Mais ce soir, on a de la chance, on va pouvoir l'écouter. C'est parti.
Nous voilà aujourd'hui, samedi 23 février 2013, à la Petite Gaillarde, où nous avons eu le plaisir d'entendre, de vivre, de sentir et de vibrer sur un spectacle d'Yves Durand et de Sergio Pereira, Donna de Pera, la dame de pierre. Yves, bonjour.
Bonjour.
Alors, comme j'ai pour habitude pour commencer mon interview, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Et où vas-tu?
Alors, qui je suis? Alors, je suis Yves Durand, je suis comédien-conteur. D'où je viens? Alors, je viens du département de l'Aveyron. J'habite à Saint-Igeste, qui est un tout petit hameau qui dépend de la commune de Montclar, qui est située dans le sud d'Aveyron, dans la région de Saint-Afrique. Et ensuite, la question, c'était où vais-je? Alors, je vais sortir de la salle, puis ensuite je vais aller me coucher, enfin manger, me coucher, et puis demain je vais à Massiac dans le Cantal. Et après, j'en sais pas plus, quoi. Je sais pas où je vais. Vraiment, je sais pas. C'est la question à laquelle je peux pas répondre. Il y a qu'une seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais mourir. Mais après, le reste, je sais pas.
Et en plus, on ne sait même pas quand. C'est magique la vie quand même. Et heureusement.
Ah oui, à Mauriac, oui, pas à Massiac, à Mauriac.
C'est un peu plus bas, Mauriac, non?
C'est dans le nord du Cantal. Voilà.
Et donc, qui es-tu? D'où viens-tu? Et le que fais-tu me manque à l'appel. Ah,
que fais-je? Alors, je fais des contes, j'aime bien conter. Je fais du théâtre aussi, je suis comédien. Et ben, voilà, c'est un peu ce que je fais. Puis, j'aime bien manger, j'aime bien boire, j'aime bien faire une cigarette de temps en temps, et puis les bonnes choses de la vie, quoi.
Tu parlais du théâtre, donc justement, tu as démarré ta carrière en 1994. La petite phrase te présentant très rigolote en disant que tu étais dans la maçonnerie, que tu as laissé tomber la truelle pour rejoindre les planches plutôt que les murs, hein, c'est ce qui n'est pas mal. Et en tout cas pour nous déjà.
J'aime bien la prendre dans la truelle encore, hein. Ça me détend, ça me lâche de... C'est vrai qu'après une tournée, après un long moment de travail... j'aime bien faire du travail plutôt physique, quoi.
Mais justement, est-ce que tout ça, ce spectacle tourne autour de la pierre? Est-ce que c'est pas un domaine qui est imprégné en fait, en toi?
Je sais pas. Alors, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question du fait que j'ai travaillé la pierre. Ouais, mais je pense qu'il y a enfin, si je disais, si je, voilà, si je parlais un peu plus de ce spectacle, pourquoi je l'ai fait, c'est plus de l'ordre du, comment dire, de l'appartenance à la terre, voilà, à la terre, à la, voilà, de l'être humain qui s'imprime, qui imprime ses pas sur une terre donnée, voilà, et c'est plus de cet ordre-là, le spectacle. C'est-à-dire que chaque être humain naît à un endroit, quel qu'il soit, et il imprime cette terre d'un pas, et cette terre, elle n'est pas... comment dire, elle porte les gens, et parce qu'on a beaucoup tendance à penser qu'il y a des morceaux de terre qui sont plus intéressants que d'autres, surtout dans le milieu culturel, et moi c'était un peu une façon de dire non, toutes les terres de la terre sont terres, et elles ont toutes quelque chose à dire, même des endroits qu'on pense un peu éloigné de la chose culturelle, ont des choses à dire. Tout endroit parle au monde, tout endroit est universel. C'est un peu, voilà, c'est un peu pour dire que j'en ai assez d'entendre des fois des discours dans le milieu culturel où il y aurait des endroits de culture et d'autres endroits qui ne le sont pas. Pour moi, tout est culturel. L'endroit le plus retranché de la terre est porteur de culture. Voilà.
D'ailleurs, pour faire parler de cette terre, tu as fait un travail de collectage, il me semble, auprès de certaines personnes, pour cette histoire, en tous les cas.
Oui, alors, oui, je me suis... bon, d'abord, j'ai fouillé dans les livres... puis j'ai fait du, j'ai parlé donc avec des gens. Faire du collectage, je peux pas dire que j'ai fait du collectage. Je suis pas collecteur, quoi. Disons, j'ai discuté avec des gens, avec des personnes âgées, avec les vieux du pays, avec des gens qui ont travaillé sur les statues menhirs, par exemple. J'ai discuté avec eux. Je peux pas dire vraiment que ce soit du collectage. Je me suis imbibé un peu de ce qu'il me disait, imprégné de ce qu'il disait, comme je me suis imprégné aussi des livres, quoi, qui parlaient de ces sujets-là.
Tu as mélangé, enfin, assemblé plutôt, on ne va pas parler de mélange, puisque sinon, oui, ce serait un beau mélange. Tu as assemblé donc des histoires ancestrales, des histoires culturelles, et qui font partie justement de la mémoire de l'Aveyron. Apparemment, cette idée-là, au moins de Pierre et d'enfants sauvages, et qui en plus s'est retrouvée tissée autour de la soupe aux cailloux et de bien d'autres histoires encore, c'est venu au fur et à mesure, ou c'est vraiment l'enfant du pays qui se balade et qui entendait déjà ces pierres vivre devant lui?
Alors, ces pierres, moi, du jour où j'ai pris connaissance de ces pierres, et au début, je n'ai pas porté attention, c'est quelque chose que je voyais, mais bon, comme souvent on fait, quand on habite un pays, souvent on ne voit pas de quoi est fait ce pays. Et c'est au fur et à mesure, comme ça, que, en grandissant, en apprenant des choses, en m'ouvrant à... aux choses, hein, comme une fleur, hein, quoi, qui pousse, qui s'ouvre, je me suis rendu compte que là, il y avait ces pierres, elles avaient à dire, à parler, à dire des choses. Et non, c'est pas depuis la première fois que j'ai vu ces pierres que je m'en suis... au départ, elles ne m'ont pas touché. Enfin, elles ne m'ont pas touché comme quand on est dans un pays ou dans une rue, on n'est pas spécialement touché par la vitrine de tel magasin. Et puis, un jour, on s'aperçoit que c'est quelque chose de formidable, de merveilleux. Souvent, on s'en aperçoit quand c'est plus là, malheureusement. Mais là, il se trouve que de toute façon, c'est moi qui leur elles me survivront, donc elles seront encore là, je serai plus là. Et c'est mieux comme ça, d'ailleurs. Et voilà, mais je peux pas dire que je me suis, dès le départ, intéressé à ces pierres et qu'elles m'ont parlé de suite, quoi. C'est petit à petit. Et les choses... Ce spectacle, il a beaucoup mûri dans ma tête, dans mon corps, parce que la tête, elle fait partie du corps. Et c'est vrai que c'est quelque chose de... comme ça a mûri, moi, je suis pas un intello, quoi. Je suis pas intellectuel, dans le sens où il faut que les choses, elles vibrent à moi pour que je les sorte, quoi. Voilà.
D'ailleurs, tu fais vibrer différentes choses hein, quand même pendant ce spectacle, parce que bon, ta voix, bien sûr, les pierres qui vibrent, voilà, de Sergio, et la langue de l'Occitan qui revient. Et donc, tu parles cette langue couramment. C'est le spectacle qui t'a amené à ça, ou c'est quelque chose qui fait vraiment partie de toi?
Alors, la langue, elle fait vraiment partie de moi. Hein, je la parle, je l'ai entendue à ma naissance, quoi. Puisque mes parents parlaient l'occitan. Donc c'est quelque chose dans lequel j'ai été bercé, dans cette langue, dans cette culture. Et je l'utilise parce que ça fait partie de moi. Et voilà, c'est naturel. Voilà, je n'ai pas forcé le trait. J'ai rien forcé de moi du fait d'utiliser cette langue-là.
Tu as plusieurs spectacles, d'ailleurs, tous intitulés en occitan. Ouais, et du coup, quel est l'accueil? Est-ce que tu arrives à exporter ces spectacles avec cette forte consonance occitane?
Alors c'est vrai que c'est difficile d'exporter les spectacles avec la langue occitane. C'est plus par... les spectacles, souvent, ça fonctionne par réseau. Le système du spectacle, ça fonctionne par réseau. Donc, c'est moi qui ai touché la chaussure. ma chaussure. Je te fais pas du pied. C'est assez difficile d'exporter. Autant, il y a d'autres langues qui sont plus faciles à exporter. C'est les réseaux. Dans le milieu culturel, il y a des réseaux. Et quand on est dans un réseau, on n'est pas dans un autre. Et c'est finalement, c'est un milieu qui est pas très ouvert, finalement, le milieu de la culture. Je trouve que le milieu du sport est peut-être plus ouvert. Enfin, je dis des choses comme ça. Peut-être c'est peut-être pas la peine de les passer à la radio. Mais moi, je trouve que le milieu de la culture n'est pas spécialement un milieu très ouvert. Des fois, enfin, sur certains, je ne parle pas de tout le monde, hein, mais des fois on remarque des choses, chacun est dans son réseau et les réseaux ne communiquent pas spécialement entre eux, quoi.
Aujourd'hui ça va, on a une belle preuve en tout cas à Clermont-Ferrand, hein, comme quoi Cervantes peut s'exporter aussi, évidemment on reste encore en Auvergne, hein, parce que Aurillac, pour ceux qui ne le savent pas, fait partie de l'Auvergne. Et... Et c'est vrai qu'on apprécie grandement ce travail, hein, avec La Mal Coiffée ou Le Chemisier Jaune. Enfin, il y a beaucoup de groupes qui tournent avec Cervantes. D'ailleurs, tu veux parler à ce sujet?
Oui, alors, quand je dis ça, c'est des fois, on a des petites montées d'adrénaline ou sur des choses qui, des fois, nous paraissent un peu par rapport au réseau et tout ça. Mais il y a quand même les choses changent, les choses bougent, les choses s'ouvrent, puisque, on arrive, là, par exemple, ici, à venir en Auvergne. On doit aller aussi en Picardie, chez nos amis Picard. Donc, ça s'ouvre quand même. Mais c'est vrai qu'on a du mal. Mais c'est pas la faute. Enfin, quand je dis des fois les milieux sont pas ouverts, les réseaux communiquent pas ensemble, c'est aussi bien de ma faute que de la faute de. C'est un ensemble de choses qui font ça. J'incrimine personne là. Je m'y mets dedans.
Non, de toute façon, oui, c'est clair qu'on se regarde après un peu en chien de fusil, il faut dire, de toute façon. Mais je suis très contente que tu ailles faire un tour en Picardie. Tu vas où exactement?
Alors, on va, moi je dirais plutôt à Laon, mais là-haut, ils disent Laon. Laon, voilà. Mais ça s'écrit L-A-O-N, et c'est la capitale du département de l'Aisne, ou de l'Aisne.
Alors c'est laine et en effet c'est lent. Écoute, je te remercie beaucoup Yves Durand, et puis on a la chance également d'avoir à côté de nous donc Sergio Pereira. Donc bonjour Sergio.
Bonjour.
Écoute, je vais te faire subir le même supplice qu'à Yves. Qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Et où vas-tu?
Alors, d'où je viens? Moi, je suis à Montpellier, en fait, j'habite à Montpellier. Je suis pas originaire de Montpellier, mais voilà, je travaille là-bas. Qu'est-ce que je fais? Je travaille avec beaucoup dans le théâtre, en fait, voilà. Donc, je suis particulièrement à la musique, ça m'arrive aussi à la technique, mais voilà. Donc, je travaille plutôt dans les, avec des compagnies de théâtre et je fais de la musique pour le théâtre.
D'accord, donc c'est vrai que là on te voit bon, avec le PC hein, sur scène, envoyer du son, je ne vais pas dire électro parce que je vais me fâcher avec toi sinon, mais...
Non, pas du tout. Bah, sur ce spectacle, oui, j'avais choisi de mettre une petite couleur électro et plutôt cosmique, hein, parce que voilà, le thème s'y prêtait.
Mais pourtant, juste devant le PC, il y a quand même un instrument extraordinaire que j'aimerais que tu fasses partager à nos auditeurs. Bon, ils n'auront pas le son, mais en tout cas, ils auront au moins son histoire.
Donc pour faire contrepoint à la musique cosmique, je me suis dit qu'il fallait intégrer un peu de musique tellurique. Et comme donc ce spectacle parle des pierres, je me suis dit tiens, on va aller chercher des pierres donc de basalte, hein, des phonolithes basaltiques, et pour fabriquer un instrument hein, qui pourrait s'appeler un lithophone. Voilà. Donc voilà, donc on a été chercher ces pierres et puis les organiser pour faire cet instrument.
Et pouvoir retrouver des notes comme on peut avoir l'habitude de les entendre et jouer comme un musicien dessus.
Oui, alors voilà, donc ça bon, c'est un peu la difficulté parce que les pierres à travailler sont très difficiles. Donc là moi je les ai pas travaillées, je les ai choisies brutes telles qu'elles sont. Après, c'est un travail d'organisation des pierres et de pouvoir travailler avec et de trouver sa propre musique, avec la propre musique des pierres. Voilà.
Donc tu fais partie aussi du théâtre. Est-ce que c'est le seul spectacle que tu accompagnes, d'Yves Durand, ou il y en a d'autres, ou où est-ce qu'on peut te voir?
Ben, là, c'est la première fois qu'on travaille tous les deux sur un spectacle de conte, essentiellement. Sinon, on a beaucoup travaillé ensemble dans une compagnie de théâtre à Montpellier. Voilà, en dehors. Sinon, moi, je travaille aussi avec d'autres compagnies. Et puis voilà, donc là, en ce moment, je suis en création avec une amie et on est en train de monter un spectacle très visuel, quoi, sur le sonore et l'image.
D'accord. Eh ben, écoute, Sergio, merci beaucoup de ta contribution à cette interview. Bon retour à vous deux à Aurillac et au plaisir de vous retrouver.
Et à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Oui dire, Radio Campus 93.3.
Voilà, on a beaucoup entendu parler de pierres. Eh bien, derrière des pierres, on peut rencontrer des loups. Je saute donc sur l'occasion pour vous présenter mon coup de cœur, un morceau de Laura Cohen, Cahen, appelé Mon Loup.
Alors Fred, juste une petite précision, je trouve que c'est un petit peu tiré par les cheveux ta transition. Je précise à tous les auditeurs qu'en fait ça fait 3 émissions que Fred veut absolument nous faire écouter ce morceau. En même temps, elle a bien raison, écoutez.
Voilà, écoutez.
Je veux te manger, mon loup, te passer à la casserole. Je vais prendre tes jambes à mon cou, te cuisiner me rend folle. Je veux te mariner, mon loup, te griller les moustaches à la poêle. Je vais te faire revenir à feu doux, crois-moi cette recette est au poil. Prendre le temps de te rendre fou, te ferai mijoter au bain-marie. Je... Je veux te découper, mon loup, t'éplucher comme une orange. Tu ne feras plus de zeste du tout, et je n'aurai plus faim, c'est étrange. Ah, se mélange comme sucré salé à mes cheveux d'ange. Ton poivre et sel se mélange comme sucré salé à mes cheveux d'ange. Je veux te gaver, mon loup, que je te reste en travers. J'y mettrai tous les ingrédients, mon chou, et tu remettras le couvert. Tu veux me gâcher, mon loup, me rouler dans la farine. Tu t'imagines que cela a du goût. Je t'en ferai des tartines. Ah, ouh, 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 ouh.
De jeunes loups.
Aou, aou, aou.
De beaux loups. Toi, Fred, qui les aime tant, je crois que tu es allé voir un spectacle il n'y a pas longtemps, le spectacle de Nicolas Bonneau à la recherche de J. Bonneau, Orexie Arion. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, alors Nicolas Bonneau avait déjà fait une immersion dans le monde social et politique avec Sortie d'usine, dont on va écouter un extrait tout à l'heure. Et là, il continue d'interroger la société en s'attaquant cette fois-ci aux faits divers. Alors, pour traquer le fait divers, Nicolas Bonneau a choisi de retracer le parcours d'un tueur en série. Non pas pour dresser un portrait complaisant de ce cas vraiment extrême, mais pour enquêter sur tout ce qu'il y a autour, les familles, les victimes, questionner la justice et la société, et aussi raconter une enquête noire, burlesque et palpitante, celle du conteur roulant en Picardie sur les traces de Jacques B. et qui ne sait ce qu'il va découvrir.
Mais enfin, pourquoi ? Enfin, quelle idée de s'intéresser à un serial killer ? Même s'il est homonyme du conteur.
Eh bien justement, Nicolas Bonneau explique la genèse de ce spectacle ainsi.
C'était en tournée. Un soir à l'hôtel, par réflexe, j'allumais la télévision. J'ai pris en cours une émission sur les tueurs en série. Le serial killer est à la mode ces temps-ci. Et j'ai vu apparaître la photo d'un tueur qui avait sévi en Picardie dans les années 80, en assassinant des femmes de manière atroce. Jacques B. était un notable respecté, marié, deux enfants, bon père, bon époux. Rien ne laissait présager que pendant 10 années, il ait pu assassiner 7 femmes. J'ai vu sa photo, puis j'ai entendu son nom, Bono, prénom Jacques, le même nom que moi. La voix off du documentaire martelait son nom sur une musique de suspense, Bono. Mon nom qui résonnait dans la pièce. Je suis resté scotché devant le poste, à la fois dégoûté et fasciné par les crimes commis. Fasciné aussi par ce patronyme partagé, comme si ce nom nous reliait, comme un film invisible.
Alors voilà ce que fut l'élément déclencheur de ce spectacle. Et le conteur s'est alors emparé de ce sujet et s'est intéressé à dévoiler la face cachée des choses, de la société, de l'être humain, jusqu'à parfois l'élever au rang de mythe et de l'universel. Alors quand Nicolas Bono parle de son spectacle, il aime à rappeler que...
C'est un polar qui commence là où tous les autres polars s'arrêtent. On connaît déjà le coupable. Les crimes sont avérés. C'est donc ce qui se passe après qui intéresse le conteur. Ou plus exactement, ce que cache le fait divers derrière la fascination et le dégoût qui l'accompagne, derrière la diversion qu'il apporte.
Alors il rencontre une galerie de personnages. Drôles, tordus, croqués avec talent toujours. Il y a un gendarme intello, un chroniqueur judiciaire pris de démangeaisons soudaines et grand amateur de sordide, quitte même à parfois oublier la vérité. Un avocat de la défense qui compare la cour d'assises avec la catharsis aristotélicienne de la tragédie théâtrale, rien que ça. Un commissaire qui soigne ses plantes vertes ou deux piliers de comptoir au raccourci facile. Et toi, Monique, qui as vu le spectacle aussi, qu'en penses-tu ?
Eh bien, Nicolas Bono, seul sur scène, qui incarne toute cette galerie de personnages plus drôles que nature, avec des qualités de comédien indéniables, passe de l'un à l'autre sans aucun problème et sans jamais se tromper, avec une aisance impressionnante et très très fluide.
Mais cette histoire, en fait, si je ne m'abuse, ça fait un peu penser à Barbe Bleue, avec ce personnage qui est un monstre, qui a tué 7 femmes, et c'est la 8e qui va le confondre.
Et oui, il établit d'ailleurs la comparaison avec ce Barbe Bleue. Ce Barbe Bleue qui tua 7 femmes et dont le sang versé tache la peau de la 8e femme qui a voulu connaître le secret de l'ogre. Et cette comparaison intervient alors que Jacques Bono, dans le spectacle, capture la 8e femme qu'il s'apprête à tuer et qui d'ailleurs parviendra à s'enfuir et à le confondre. Et comme la nouvelle épouse de Barbe Bleue, celle-ci se trouvait aussi la 8e femme de l'ogre. L'évocation du conte est aussi une autre tentative de compréhension du fait divers. Les mythes et les contes restant un média pour appréhender la complexité de l'âme humaine. Tout s'y joue déjà de manière fantasmée, n'est-ce pas ? En fait, c'était un beau travail, ce spectacle de M. Nicolas Bono. D'ailleurs, Pierre va nous lire un extrait du spectacle, à savoir « Comment s'y prendre pour suivre une fille dans la rue ?»
Suivre sa poix dans la rue sans se faire repérer. Alors, il y a différents modes opératoires. Des modus operandi. Halle d'immeuble, comme Guy Georges, le tueur de l'Est parisien. Vous vous déguisez en vieille. Course, sac, vous attendez que quelqu'un vous propose de vous déposer. Attention à bien vous épiler les jambes, dos tourné, machette, coup du lapin. Femme enceinte, comme Fourniret et sa femme. Parking, jeune fille. La portière se referme en même temps que le piège. Pas de modus operandi comme F. Holmes, dit le routard du crime. Frappé au hasard selon vos pulsions, en laissant sa signature. Opinel, pierre, étranglement... Pour suivre une fille dans la rue, la règle numéro 1, c'est de ne pas se faire repérer. Garder ses distances. Ne pas hésiter à changer de trottoir. Voire même, si besoin, allonger les murs. Si elle se retourne, hop ! Technique du lacet. Mince, j'ai pas de lacet. Se cacher derrière un journal. Mince, je crois qu'elle m'a repéré. Elle s'avance vers moi. Bon, sinon, si vous êtes chauffeur de bus dans Lyon, vous avez juste à vous servir.
Mais... Voilà l'extrait donc du spectacle et pour Nicolas Bono, c'était pas si simple de travailler avec un assassin, enfin ce spectacle autour de ce fait divers. C'est pourquoi il a décidé de se faire suivre par une psy. On ne sait jamais, pour ne pas se perdre, disait-il. Et voici un extrait de ce dialogue avec sa psy.
Dites-moi, monsieur Bono, est-ce que vous savez ce que c'est que ça ?
Une figurine de sanglier ?
Exactement, monsieur Bono. Imaginez, vous êtes dans la forêt, vous marchez, quand tout d'un coup, vous tombez nez à nez sur une femelle sanglier, une laie avec ses petits marcassins. La femelle sanglier vous charge, vous attaque. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bonneau ?
Ben, je cours.
Vous courez, elle vous poursuit, vous sortez de la forêt, sur la route. Ouf, vous êtes sauvé. Dites-moi, monsieur Bonneau, que ressentez-vous ?
J'ai eu peur.
Êtes-vous en colère ?
Non.
Pourquoi ?
C'est un sanglier, je vais pas être en colère contre un sanglier.
Et d'après vous, pourquoi vous a-t-elle chargée ?
Elle a eu peur, elle a défendu ses petits.
Et vous, monsieur Bonneau ? De quoi avez-vous peur ? Non, réfléchissez. Vous me répondrez la semaine prochaine. N'oubliez pas les 90 euros.
Et maintenant, nous allons écouter Nicolas Bonneau dans un autre de ses spectacles qui s'intitule « Sortie d'usine ».
Un jour, mon père est rentré à la maison et puis il nous a dit « Je n'ai marre d'être pris pour un con, j'arrête l'usine, je me barre ». Bon, nous, on a rigolé, ça fait au moins 10 ans qu'il disait ça. « J'en ai marre d'être pris pour un con, j'arrête l'usine, je me barre ». « Arrête de faire des histoires », a dit ma mère. « Tu veux bien pousser jusqu'à la retraite, non, comme tout le monde ?» Mon père a arrêté l'usine. Et finalement, j'étais tellement surpris. Il avait déjà une bonne 50aine d'années. J'ai trouvé ça tellement courageux que je me suis rendu compte que je m'étais jamais demandé ce qu'il avait pu faire pendant les 30 dernières années passées à l'usine. C'était en 2006. Alors j'ai commencé à faire un collectage dans le Poitou-Charentes, là où j'habite, particulièrement dans les Deux-Sèvres, et à visiter des usines, rencontrer des ouvriers. Et je me suis notamment attaché à un couple qui s'appelle Gilbert et Catherine, Simoneau. Alors Gilbert m'a emmené dans un atelier dans une usine de pétrochimie et dans un atelier de ferronnerie. Et puis Catherine, elle travaillait dans un atelier de confection, qui avait tous fermé et qui ont à peu près tous fermé. Et souvent, je demandais à Catherine de me raconter comment c'était son atelier de confection. Et à chaque fois, elle me répondait, vous savez, il n'y a pas grand-chose à raconter. Mais en général, il n'y a jamais grand-chose à raconter. Ils n'ont jamais rien d'intéressant à raconter. Un grand bâtiment, non. Pour un corps plus polisson, habillez-vous sans contrefaçon. Chez Sans Contrefaçon, on fait dans la dentelle. Mais attention, du haut de gamme. Porte-jartelle, nuisette, petite culotte, soutien-gorge. Un grand bâtiment tout en longueur, avec des verrières et des toits en oblique pour laisser entrer la lumière. Il y a des ventilateurs au plafond, mais il fait toujours chaud. Il y a aussi une musique de fond en permanence. C'est pénible. Là-bas, il y a un grand poster qui représente une plage de sable fin, des cocotiers, une île. Avec, sur le poster, il y a une des filles qui a dessiné deux amours avec un petit cœur au milieu. De chaque côté, des machines à coudre grises que rejoignent des fils électriques entrelacés de trois couleurs différentes. Et au-dessus des machines, des lampes individuelles. Et à côté des machines, les tissus qui attendent d'être assemblés. Les filles portent des blouses roses. Ça sent l'huile de coude. Ça s'agite dans tous les sens. Ben de loin, comme ça, là, toutes ces lumières, toutes ces couleurs, ça fait joli. Et par-dessus tout ça, il y a le cliquetis des machines. Et clic, clac, ça pique, ça repique, et pique sur pique, repique, bobine, rembobine, débobine, et clic, clac. Là-bas, il y a l'expédition. Là-bas, l'emballage. Et là-bas, la découpe, et clic, clac, ça pique, ça repique, et pique sur pique, repique, bobine. Le plus pénible ici, c'est le rendement. La contre-maître s'aligne sur celle qui va le plus vite, et les autres doivent suivre. Ben, sinon, pas de prime, des primes. Et clic, clac, ça pique, ça repique, et pique sur pique, repique, bobine, rembobine, débobine. Il faut apprendre sur le tas, le dos courbé sur la machine. Attention aux doigts! On a beau travailler dans la dentelle, quand ça pique, ça fait mal. Et clic, clac, et pique, repique, sur pique, repique, bobine, rembobine, débobine. Il y a les polyvalentes qui préfèrent changer régulièrement de tâches pour éviter la monotonie. Et les permanentes qui font toujours la même chose pour avoir un meilleur rendement. Clic, clac, ça coupe, ça découpe, et fil sur fil, repique, bobine, rembobine. Crise d'arthrite! Crise de larmes! Attention, doigts! Clic, clac, ça coupe, ça découpe, et fil sur fil, refil, bobine, rembobine, débobine, et clic, clac. La machine qui est là devant, ça c'est la machine de Catherine. Mais Catherine, à l'atelier, tout le monde l'appelle Cathy. L'autre jour, sa fille lui a dit, « Maman, ton boulot, ça va vraiment être l'enfer. » Derrière la machine de Cathy, c'est la machine de Rosita. Rosita qui est portugaise, arrivée avec son mari qui bosse chez Eliès, dans l'automobile, à Cerizay. Derrière Rosita, c'est la pissette. Alors on l'appelle comme ça parce qu'elle est tout le temps en train de se dandiner sur son siège, et puis elle est tout le temps rendue aux toilettes. Ça énerve la contremaître. Derrière la pissette, c'est Sœur Sourire. Oui, parce que... tout le temps. Et derrière Sœur Sourire, c'est Amélie. Alors Amélie, elle prend des pauses de plus en plus longues avec Jérôme, l'assistant du comptable. Mais chut, parce que Amélie est mariée. Et en plus, elle a deux enfants. Là devant, c'est Chris. En fait, elle s'appelle Christiane. Et son rêve à elle, ce serait d'être styliste à Paris. Derrière Chris, c'est la baleine. Oui, parce qu'elle est spécialiste des baleines de soutien-gorge. En plus, elle rigole tout le temps, alors. Derrière la baleine, c'est Marie-Claire. Vous vous souvenez de Marie-Claire ou pas? Non, forcément. Marie-Claire, en fait, c'est une ancienne Catherinette. Bon, depuis l'époque des Catherinettes, c'est vrai qu'elle a pas mal forci. Maintenant, on l'appelle 54. Derrière Marie-Claire, c'est la petite frisée, là, c'est Micheline. Alors, Micheline, personne n'a jamais entendu le son de sa voix à l'atelier. Ainsi, une fois, quand elle s'est pris l'aiguille dans le pouce, jusqu'à l'os, plus ça monte, sa naissance, ça fait un mal de chien. Ils ont dû couper l'aiguille, enfin, elle a hurlé dans tout l'atelier, ça s'est répandu partout. Ils ont dû couper l'aiguille et l'emmener avec l'aiguille dans le pouce aux urgences. Et après, on ne peut pas mettre de sparadrap parce que sinon, ben, on ne sent plus le tissu. Elle a repris le boulot une heure après. Hein. Micheline, elle mange toute seule, tous les midis, dans sa voiture. On ne sait pas pourquoi. Et derrière Micheline, il y a Josette, normalement. Et là, elle est en congé maladie à cause de son arthrite au doigt. Et puis là, devant et là, il y a d'autres filles. Hein, je ne les connais pas. La grande porte coulissante qui est là-bas, ça, c'est l'atelier de René, le mécano. Alors, les filles l'adorent. Hein. Elle leur surnommait le général. Parce que les filles, elles aiment bien bosser sur la machine. Hein. Alors, quand il y a une panne, René trouve toujours la solution. La petite pièce, le petit miracle. Ben, vraiment, elle l'adore. Et les contremaîtres. Bon, de ce côté-là, elle n'aime pas beaucoup. Hein. Alors, sans le nommer Dark Vador. Ici, elle a son nommé Fourrure, à cause de la moustache, parce qu'elle est portugaise. Ah non, mais c'est Rosita qui a trouvé le surnom, on a le droit. Hein. Ah ben, les filles entre elles, c'est pas toujours tendre. Hein. Il paraît que parfois, c'est un vrai panier de crabes. Mais bon, comme dit Cathy, ça va. Il y a pire comme boulot. Il y a pire comme ambiance aussi. Cathy, elle est venue une heure plus tôt chaque matin, pendant un mois, pour coudre la robe de mari de sa fille Sylvia. Je peux vous dire que c'est une très belle robe. Eh bien, c'est la première fois que sa fille a trouvé que sa mère faisait un boulot vraiment super. Le calendrier qui est à côté des toilettes, c'est le calendrier des top modèles de 100 contrefaçons. Et des top modèles de Paris et tout. Hein. Alors, ce qu'elles ont fait, les filles, pour rigoler, c'est qu'elles ont découpé les têtes des top modèles et puis elles ont mis leurs têtes à la place. Parfois, quand il y a une nouvelle collection qui sort, certaines des filles se retrouvent entre elles et elles essayent de nouveaux modèles. Hein, sauf leur petit défilé de mode entre elles. La dernière fois, il y a même Marie-Claire qui est venue. Donc, elle a plutôt aussi un modèle grande taille. Hein. Et Chris qui a vraiment l'œil à tout. Non, mais c'est pas vrai, ça. Qui m'a causé cet ensemble? Non, mais c'est quoi tous ces fils qui dépassent? En fait, c'est Marie-Claire qui n'a pas le temps de se faire le maillot. Ah non, mais les filles lui ont dit à Marie-Claire. Hein. Toi, Marie-Claire, si tu voulais, tu pourrais être mannequin. Ah ben, au salon d'agriculture. Ah ben non, mais les filles entre elles, c'était pas toujours tendre. Hein. Parfois aussi, c'est pénible. En ce moment, Rosita, il y a son mari qui rentre sous tous les soirs. Parce que chez Eliès, c'est licencié. Puis son mari est dans le lot. Alors comme elle dit, déjà qu'avec nos deux SMIC, c'était pas facile, alors avec un seul, comment est-ce qu'on va faire? Sœur Sourire. Derrière son grand sourire, eh bien tous les dimanches soirs, elle a des coliques. Mais parce que lundi matin, il faut aller au boulot. L'autre jour... Dark Vador a dit à Micheline, écoutez ma fille, vous avez les mains moites. Eh bien, ça tâche au tissu. Alors, il faut me trouver une solution, sinon c'est... Et à partir de 84, il y a eu les premières délocalisations en Tunisie. Et avec les premières délocalisations, les premiers licenciements. Dark Vador distribuait directement les lettres d'inscription aux acédiques. À l'époque, on ne disait pas encore le pôle emploi. Alors, quand elle passait devant un défi sans s'arrêter, comme à l'école... La fille faisait un grand ouf de soulagement. Saunier, Borel. Et puis bon, ça a vivoté comme ça pendant quelques années. Les filles, elles ont appris la fermeture de Sans Contrefaçon aux informations régionales de France 3. Comme dit Cathy, ils auraient pas le courage de nous le dire en face quand même, non? Alors, lundi matin, quand on sera revenu à l'atelier, la première chose qu'elles ont demandé d'abord, c'est que qu'on éteigne cette putain de musique. Simplement entendre le bruit des machines.
Vous écoutez Oui Dire sur Radio Campus 93.3.
Et oui, le rêve ne rejoint pas toujours la réalité. Nous allons écouter un chanteur qui nous vient du Nord, Loïc Lantoine, avec sa chanson « Cosmonaute ».
On va faire une autre chanson française. C'est une chanson française qui commence par de l'authentique, c'est de la chanson en réalité. Un jour où je me barrais en... où j'étais en légère errance... Où ce que mon père il m'a dit, écoute-moi bien, fils. Aujourd'hui, quand on veut la lune, on n'est pas poète, on est cosmonaute. Mon papa, je m'en viens juste d'allunir. Je regarde. Si je vois pas la maison, et je prends le temps de t'écrire pour te dire que t'avais raison. Mon scaphandre, il est pas nouveau, mais il sent très bon la sueur. Je te salue chez mon boulot, le front déposé sur ton cœur. La bande à collègues, et puis moi. On est content d'être cosmonaute. Au début, on avait les foies. Mais on s'est tous collés aux autres. J'étais pas vaillant au labeur. Mais d'Armentière à Baïkonour, j'ai tenté de jolier les heures. Sachant que t'aurais tout fait pour. Aujourd'hui, dans ce grand bordel, j'essaie de gueuler en souriant et de tracer à tire-d'aile un dessin qui unit les gens. Mon papa, je m'en viens juste d'allunir. Dis-moi si t'aperçois ma flamme. Plaisir que j'ai à divertir. Et salut ma maman, ta femme.
Ah, la voix de Loïc Lantoine. Bref, ne s'égarons pas. J'ai le grand honneur de vous annoncer l'arrivée d'une nouvelle chronique dans cette émission, qui est une chronique intitulée « Trouvailles ». Et oui, parce que nous, dans l'émission, on s'interroge beaucoup sur l'art du conte, et du coup, on se renseigne. Un des grands débats actuels chez les conteurs, c'est de définir l'art du conteur. C'est une pratique ancestrale, mais son évolution en art de la scène est toute récente. On y réfléchit, on cherche, on se cherche, on s'informe, on en discute. La matière est vaste, du conte traditionnel au récit de vie, comme vous avez pu l'entendre sur le début de cette émission. Alors, pour nous aider, il y a des ouvrages, des enregistrements, des sites internet. À partir de maintenant, on va essayer de vous faire part de nos dernières trouvailles en la matière. Et aujourd'hui, c'est moi qui commence avec quelques sites web fort intéressants. Alors, chers auditeurs, à vos crayons, à vos papiers, parce que j'en ai une tripotée à vous faire découvrir. Tout d'abord, si vous recherchez des contes, il y a un tout nouveau site qui s'appelle Wikiconte, que vous pouvez trouver à l'adresse... Attention, ça commence par un nom parce que c'est un conteur qui a lancé ça. Fabien Delorme, F-A-B-I-E-N-D-E-L-O-R-M-E.fr/wikiconte.
Et l'idée, c'est de mettre à la disposition de la communauté un grand nombre de textes de contes et autres textes issus de la tradition orale. C'est un site participatif, c'est-à-dire que tout le monde peut collaborer et mettre des textes de contes sur ce site, dont je répète le nom, Fabien Delorme, fabiendelorme.fr/wikiconte. Et tout à l'heure, en recherchant un petit peu tout ça, je suis tombée sur un autre site qui s'appelle Wikiconte, wikiconte.fr, qui est spécialisé dans les contes pour enfants, mais j'ai pas eu le temps d'y jeter un coup d'œil, donc Pierre, ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Donc par contre, ce site-là, je n'ai pas pu y jeter deux coups d'œil, donc je ne sais pas vraiment ce qu'il vaut. Voilà. Et puis, quand vous racontez, on ne sait pas forcément comment finir un conte, comment le commencer, comment passer d'un conte à un autre. Eh bien, il y a un fabuleux site de formulettes qui s'appelle Apple Pie, A-P-L-E-Pie, comme une paille, applepie.com, où vous pouvez trouver des trésors de petites phrases à mettre dans vos racontés. Il y a aussi un site qui raconte un projet de collecte et de valorisation du patrimoine oral francophone avec beaucoup d'outils pour les enseignants. Je le dis pour les étudiants en FLE, ça peut intéresser. C'est le site qui s'appelle Conte-moi, conte comme un conte, -moi.net. Voilà, il y a des contes écrits, des contes racontés et plein de petits outils intéressants. Est-ce que vous en voulez encore ?
Oui.
Oui.
Alors après, si on veut s'intéresser à la matière de la littérature orale, qui est un sujet très vaste et compliqué, il y a déjà tous les sites des maisons du conte, les quelques maisons du conte que nous avons en France. Vous pouvez aller par exemple sur le site du CMLO, le Centre méditerranéen. Oh, je vais y arriver. Le Centre méditerranéen de littérature orale, où il y a plein de ressources et d'informations sur la littérature orale. Et l'adresse du site, c'est euroconte.org. Euroconte, E-U-R-O-C-O-N-T-E.org. Et puis après, on a toutes les maisons du conte. La maison de Chevilly-Larue. Donc l'adresse, c'est lamaisonduconte.com, où il y a pas mal d'informations sur la formation des conteurs. Il y a aussi le site du Clio, qui est le Conservatoire contemporain de littérature orale, à l'adresse clio.org. Et alors, il y a un truc très intéressant qui vient d'être mis en ligne, c'est leur chaîne YouTube, Le Monde en Conte. On peut écouter tout plein d'histoires. Et puis, il y a aussi le Centre des Arts du Récit en Isère, avec leur festival, qui a lieu bientôt, au mois de mai, je crois. Arts du Récit, art au pluriel.com, tout se tient. Il y a aussi des collectifs de conteurs qui essaient de faire vivre la matière conte. En Alsace, on a un réseau régional de conteurs qui sont dans une dynamique collective qui s'appelle Oralsace, O-R-A-L-S-A-C-E.net, avec plein d'informations. Et puis sur Lyon, des chercheurs qui ont mis au point un site expérimental de recherche associant des chercheurs, des conteurs, des professionnels de l'image et du son pour parler des pratiques contemporaines du conte de tradition orale. Il y a des forums. Vous avez le forum de conteur.com. Je ne sais pas s'il est toujours vivant, mais en tout cas, il est très intéressant. Si vous avez envie d'aller voir des conteurs, il y a des agences de diffusion avec des conteurs très très bien dans leur tiroir. Nous avons par exemple Les Singuliers. Donc Les Singuliers au pluriel qui se tient.fr, où vous pouvez retrouver par exemple Micheline Denocq,
Catherine Zarkat
et bien d'autres que nous adorons ici. Et puis il y a l'agence dans Sirventes.com dont on a déjà parlé, et je crois que Yves Durand, dont on a écouté l'interview au début de cette émission, cette agence le fait tourner. Et bien d'autres dont nous aurons l'occasion de parler. On parlait de Micheline Denocq qui travaille au sein des Singuliers. Il a un blog où il fait toutes sortes de gloses très amusantes. Vous pouvez aller faire un tour sur michel-indenocq, H-I-N-D-E-N-O-C-H.blogspot.com. Puis des fois, je vais un petit peu voir les sites de Patricia Gaillard et Catherine Zarkat, qui ont toujours plein de documents. Catherine Zarkat a toutes sortes de documents intéressants. Patricia Gaillard, elle met en ligne un forum, on peut discuter. Vous tapez leur nom et vous tombez sur leur site. Et puis, je peux pas terminer cette chronique sans parler des réseaux professionnels. Il y a l'APAC, qui est l'Association professionnelle des artistes conteurs.
Vous pouvez adhérer, il suffit d'aller sur le site Compteur Pro, compturspro.fr. Et puis il y a aussi le site du Réseau National du Conte et des Arts de la Parole, qui regroupe donc ce réseau-là ainsi que Monde Oral. Vous trouvez ça à l'adresse conte, comme un conte, petit tiret, art de la parole, art au pluriel, tout se tient, .org/monde oral. Alors sur ce site, vous pouvez par exemple trouver les retours sur la journée nationale du conte. J'ai pas arrêté de vous bassiner avec ça dans quelques émissions précédentes. L'extrait de sortie d'usine de Nicolas Bonneau que nous avons écouté, on peut le retrouver sur cette page web. Et sur cette page web, on peut retrouver plein d'autres conteurs. Alors mes petits chouchous, il y a Yann Blake, si vous savez parler anglais, elle est absolument extraordinaire. Jeanne Ferron, complètement décalée, ravagée, je sais, j'ai pas d'autre mot qui vient, mais vraiment faut l'écouter. Elle est un peu perchée en fait, j'aime beaucoup. Rachid Boily, qui est dans le récit de vie, qui est très drôle. Annie Hifton, qui est une conteuse traditionnelle, mais qui mêle l'histoire de sa vie au conte traditionnel que sa mère lui racontait. Peut-être on vous fera des petites surprises et qu'on vous en fera écouter dans les émissions qui viennent, puisque ça reflète vraiment tous les aspects du conte aujourd'hui, du traditionnel au moderne.
Après les petits conseils informatiques de Fred, c'est à Monique et l'autre Fred de réveiller nos papilles et déguiser nos écoutilles avec les nouvelles du conte dans les environs et pour les jours à venir.
Oui dire sur Radio Campus 93.3.
Le voici, le voilà de retour. Pour la 19e année, le festival du Puy de Môme, du 15 au 27 avril, organisé par la ville de Cournon, avec du conte musical, de la lecture théâtralisée, des marionnettes et même de la danse. Alors rendez-vous dans les différents lieux. Pour tout renseignement ou réservation, au 04 73 77 36 10 ou au 04 73 77 36 15 ou sur le site internet www.cournon-auvergne.fr.
Alors, un autre festival aussi qui n'est pas tout à fait terminé, le 5e festival de culture dans tous les sens. Il se poursuit jusqu'au 16 avril, il a déjà commencé. Et il y a encore plein de belles choses à voir, du théâtre, des marionnettes, du mime. Et le fameux conteur nantais que l'on aime beaucoup, Marc Bulléon, le 10 avril à 15h à la Maison de la Culture pour son spectacle « À portée de voix ». Et nous espérons vous le présenter à la prochaine émission de Oui Dire. Il conte la vie de jeunes autistes, devenant chacun d'eux avec une justesse et une sensibilité extraordinaires.
À la médiathèque de Chamalières, les 3 et 16 avril, vous pourrez rencontrer Françoise Glière, conteuse qui animera du conte. Alors, le mardi 3 avril à 10h30 pour les enfants de 0 à 3 ans et le mardi 16 avril à 17h pour les enfants à partir de 5 ans. Mais également, Françoise Guagou à la bibliothèque de Ménétrol le mercredi 10 avril.
Alors bien sûr, on n'oublie pas le CAF-Conte, chaque deuxième mardi du mois, c'est-à-dire le 9 avril, la semaine prochaine, au Café Lecture des Augustes avec notre fée Mélusine Geneviève Giraud.
Le Festival de Poche à Saint-Jean-des-Aulières, le samedi 28 avril, où on pourra y retrouver entre autres Fred Lanor, mais nous on vous en reparlera.
Et bien avec tout ça, aucune raison de rester scotché devant nos télés. N'hésitez pas à sortir pour régaler vos yeux et vos oreilles avec le spectacle vivant.
Merci beaucoup les filles pour toutes ces informations et j'espère que nos auditeurs vont s'empresser de courir à tous ces beaux spectacles. Voilà, la fin de l'émission approche, ça va être l'heure de se dire au revoir. Fred et Monique, encore vraiment merci pour cette belle émission. Et Pierre, petit Pierre, jeune Padawan, merci beaucoup pour ta belle voix et tes hurlements et ces hurlements de loup à croquer. Merci à toi. Les filles, à la prochaine fois.
À la prochaine.
Et puis Pierre, l'autre Pierre, le grand Pierre Yoda, toi silencieux derrière ta vitre, toi qui tiens la barre pour guider cette frêle embarcation qu'est Ouidir à travers les méandres dangereux et les écueils sans pitié de l'océan radiophonique. Oui, je sais, j'en fais trop. J'arrête.
Derrière.
En tout cas, merci. Merci beaucoup Pierre. On te dit à la prochaine fois.
Ça marche. Dans 15 jours, je crois, non?
C'est ça. Ouais, on se retrouve dans 15 jours, le 15 avril. C'est ça?
Oui.
Juste comme tout à l'heure, ma chronique, je vous ai balancé beaucoup d'adresses internet à la seconde. Alors, si vous avez envie de les retrouver, d'une part, si c'est pressé, vous pouvez nous envoyer un petit mail à l'adresse ouidire@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous les envoyer. Et puis, dans quelques temps, de toute façon, notre beau collectif Le Quoi, qui est né il n'y a pas longtemps, aura un site internet sur lequel nous mettrons tous ces liens. On vous tient au courant. Il faut que je dise un grand merci à Christine Buteau-Bourguignon qui, je crois, nous écoute pour cette belle interview qu'elle a réalisée, qu'on a pu vous faire écouter tout à l'heure. Avant de terminer, j'ai le temps pour une énigme, Pierre? Parce que quand même, on avait pris un petit peu l'habitude, je ne peux pas vous laisser comme ça. Elle est un petit peu plus longue, celle-ci. Ouvrez grand vos oreilles.
Allons-y.
Alors, ça se passe dans un pays où quand tu es condamné à mort, tu as droit à une dernière phrase. Et cette dernière phrase va déterminer ta façon de mourir. Si tu énonces une vérité, on te coupe la tête. Si c'est un mensonge, tu es pendu. Un jour, un condamné à mort a dit une phrase, il s'en est sorti. Il a évité la pendaison, il a évité la décapitation. Qu'a-t-il dit? Ça laisse pantois. Je rappelle que si on énonce une vérité, on vous coupe la tête. Et si vous dites un mensonge, on vous pend. Voilà, je vous laisse avec ça dans les oreilles. J'ai plus de temps, la Pierre. Parce que j'avais une toute petite histoire. On m'a raconté une histoire tout à l'heure avant que je parte de chez ma grand-mère. J'avais envie de vous la faire partager. Imaginez-vous qu'en Martinique, on vient de pêcher un poisson énorme qui fait 1 kilo. Ils ont trouvé que c'était une truite fario. Elle était pucée, cette truite. Et vous savez d'où elle venait?
Du Béda.
Du Livre à Doigts Forez. Une truite fario qu'on a pucée, qui normalement est un poisson d'eau douce. On les a retrouvées dans les eaux là-bas salées de la Martinique. Elle faisait 1 kilo, je sais plus. Ah, 1 kilo, je vous dis 1 kilo, c'est pas ça. 1 mètre. Et elle a réussi à traverser de Giroux dans Livre à Doigts Forez jusqu'à la Martinique, c'est marqué, c'est dans un magazine qui s'appelle Central Park, je vous assure.
C'est extraordinaire.
Oui. C'est extraordinaire.
Belle histoire.
Bah oui, de toute façon, on dit que le mensonge et la vérité habitent la même maison et empruntent la même porte. Alors méfiez-vous des conteurs, méfiez-vous des histoires, surtout un 1er avril. En attendant, vous pouvez reprendre vos oreilles, mais chouchoutez-les, dorlotez-les, prenez-en soin et surtout pensez à nous les ramener la prochaine fois.
Oui dire.
Sur Radio Campus 93.3. Oui dire.
Infinite you.